Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vais vous raconter aujourd'hui un bout de l'histoire de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est là assis en face de moi. Bonjour Thierry Ardisson.
Bonjour, bonjour Christophe, tout va bien?
Ouais, vous me direz si tout va bien après. J'ai bâti mon histoire à partir de votre livre, évidemment, Confession d'un baby boomer, paru en 2005. Et comme évidemment je ne pouvais pas tout raconter, j'ai choisi le passage le moins connu de votre vie, c'est-à-dire le début, le tout début de votre naissance jusqu'à votre rencontre avec Daniel Filipacchi. Et ça va me permettre de répondre à une question que j'ai trouvée vraiment intéressante. Comment ça se fabrique, un hardisson? Et aussi, quel est votre petit moteur? Qu'est-ce qui vous fait avancer depuis toujours? Et je crois que j'ai trouvé la réponse dans ce bout d'histoire. Voici la fabrication de Thierry Ardisson, une histoire réalisée par Céline Levras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
La scène se passe en 1976 dans la salle de rédaction d'un magazine parisien ultra branché, Façade. Un journaliste goguenard brandit un passeport.
Hé les gars, regardez, Thierry Ardisson, lieu de naissance, Bourganeuf dans la Creuse. Ben alors mon Thierry, t'es creusois? Pourquoi tu dis que t'es né à Nice? C'est quoi ce bobard?
Ben oui, c'est vrai qu'il dit qu'il vient de Nice. C'est toujours plus chic que Bourganeuf dans la Creuse. Mais en même temps, c'est un demi-mensonge, hein. Sa mère Renée, dite Mickey, est niçoise. Et son père Victor est de Saint-Laurent-du-Var. Ils viennent du Sud. Là-dessus, il ne ment pas. Mais son père étant conducteur de travaux, ils passent leur vie à déménager de chantier en chantier. Et c'est comme ça que Thierry est né dans la Creuse. À part ça, c'est une famille unie, les Ardisson. Le petit Thierry a une relation fusionnelle avec sa mère. Mais physiquement, ah, c'est à son père qu'il ressemble, hein. Brun, élégant, souriant. Le père, c'est une vedette, comme on dit dans le Midi. Qui, de temps en temps, au café, monte sur la table, figurez-vous, pour faire des claquettes. Le père adore Fred Astaire, et Gene Kelly, et Ginger Rogers, et aussi Cab Calloway.
How'd you like to know your top? Dig yourself some fine rebop. Hidey-ho, hidey. Oh, the hidey-ho, man, that's me.
Le père est un toqué d'informations. Il écoute Europe numéro 1, oui monsieur, et il lit Paris Match toutes les semaines. Son rêve était de devenir journaliste. C'est la guerre qui l'a obligé à rentrer dans les travaux publics. Et c'est Thierry, son fils aîné, qui va réaliser son rêve. Je vous l'ai dit, les Ardisson déménagent tout le temps. Et en 1954, le père est envoyé en Algérie, sur le chantier de reconstruction de la base militaire de Mersel Kébir, près d'Oran. Et c'est là, en Algérie, que les Ardisson achètent leur première voiture, une Juva 4. Et à la Toussaint 1954, les voilà partis, innocemment, toute la famille, pour une balade dans les Aurès, en voiture. Et à un moment, ils ne s'y attendent pas, on leur balance des pierres. Ils doivent faire demi-tour. La guerre d'Algérie vient de commencer. Il reste néanmoins encore un an et demi, et là survient un drame. Je ne vous l'ai pas dit, mais les grands-parents paternels ont suivi. Le grand-père Marius travaille sur le chantier avec le père. Et un jour, il tombe, un camion lui recule dessus, il meurt écrasé. Et derrière ce drame se cache un autre drame. À partir de maintenant, la grand-mère, Marie-Louise, va vivre avec eux. Au début, encore môme, j'ai pas deviné toutes les conséquences. Les effets désastreux que cela aurait sur l'humeur de ma mère, et par ricochet, sur ma vie. Eh oui, c'était comme ça dans les années 50. Les belles filles se tapaient la belle-mère pendant toute leur vie. Du lever au coucher. L'enfer. Et chez les Ardisson, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un climat pourri, lourd. La mère ne la supporte pas, mais elle ne dit rien, hein. à cause de son éducation, à cause de monsieur le curé qui dit qu'il faut pas se plaindre. Un soir, elle en a plein le dos. Alors elle va s'enfermer dans la salle de bain.
Mais enfin, Mickey, sors de là!
J'étais effondré, triste. Je traînais un spleen de petit garçon très proche de sa mère et qui la voyait devenir malheureuse. Et donc, en 1956, toute la famille, y compris la mémé Marie-Louise, quitte l'Algérie pour un nouveau chantier dans les Alpes, la construction d'un barrage à Arèche, une petite station de ski du Beaufortin à 1300 mètres d'altitude. Au passage, bonjour le choc thermique. Et dans le chalet, comme à Alger, la guerre reprend entre la mère et la belle-mère. Je suis l'innocente victime d'une erreur de placement familial. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, hein? Ce que je sais, en tout cas à 10 ans, c'est qu'en compensation de l'injustice de ma naissance, je serai célèbre. 10 ans! Et en attendant, pour le récompenser de son bachot, le père Ardisson offre à Thierry des vacances. Il lui file 3000 balles. C'est pas mal. Et Thierry choisit d'aller les dépenser au camping de Juan-les-Pins. On est en juillet 1966. Il a 17 ans. Et une fois sur place, il finit par convaincre sa petite amie, Geneviève, de le rejoindre. Je dis sa petite amie. Il n'a pas encore couché avec elle. Elle est pucelle. Elle arrive et pendant 2 jours, ils dorment côte à côte. Rien ne se passe. Il est fleur bleue, Thierry. Et puis un soir, Geneviève éclate en sanglots.
Écoute, Thierry, voilà. Pendant que t'étais parti, j'ai couché avec un garçon.
Il le prend en pleine poire. Et il lui dit...
Eh ben, casse-toi.
Et elle se casse. Et donc, il se retrouve tout seul à déprimer sur la plage. Et un matin, il se fait draguer par un mec.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici, jeune homme?
Le gars s'appelle Johnny Honeywood. C'est le patron de Whisky à Gogo, la discothèque branchée de Juan-les-Pins.
Dis donc, Thierry, ça te dirait d'être notre nouveau disquaire, hein, Whisky à Gogo? C'est simple, hein, il suffit de passer des disques sans laisser de blanc.
Disquaire ou Whisky à Gogo? Il dit ouais tout de suite. Et c'est comme ça qu'il entre dans le monde de la nuit. Ce type m'a mis sur la voie de ce qui serait ma vie. De la musique, du spectacle, de la drogue, des voyages, des femmes, du sexe, du fric. Tout est parti de ce coin de plage de Juan-les-Pins pendant l'été 66. Thierry n'y connaît pas grand-chose en musique à la mode. Et le chef barman le prévient tout de suite. Hein.
Attention, hein. S'il y a une table mort, la salle se vide. Et si la salle se vide, toi t'es vidé.
Alors à 17 ans, Thierry apprend à jongler avec les 45 tours. J'ai entrepris de baiser tout ce que je pouvais. Mais cet été-là, il découvre aussi le monde un peu secret à l'époque de l'homosexualité. Quand la boîte ferme à 4 heures du matin, Johnny Honeywood embarque les garçons. Ils vont boire quelques verres à Cannes et en général, ça se termine en orgie. Est-ce que Thierry y participe? Eh bien non. Il regarde. Il reconnaît même que ça l'excite. Mais il reste spectateur. Il aura beaucoup plus tard une relation homosexuelle. Une, par curiosité. Et d'après ce qu'il dit, sans plaisir. Mais cet été-là, l'été de ses 17 ans, il se contente de mater. Bref, quand les vacances sont finies avec tout ça, il a changé, notre Thierry. Il a beaucoup changé. Et en septembre 1966, le voilà donc étudiant à la faculté de lettres de Montpellier. Concernant mon cursus universitaire, faut que je te dise, j'ai menti toute ma vie. J'ai dit que j'avais une licence d'anglais. C'est pas vrai. J'ai jamais eu de licence. L'anglais, je l'ai appris avec les Beatles. Love, love me do. You know I love you. partir de ses 18 ans, dès qu'il a 3 sous, Thierry file à Londres. Paris, c'est la ville de Gaulle et de Guy Lux. Londres, c'est une monarchie illuminée par le rock'n'roll. Rien à voir. Les Beatles, les Stones, les Kings, les filles en mini-jupe, les chapeaux melons qui côtoient les cheveux longs, le Swinging London, c'est l'endroit où il faut être. Mai 68, Thierry le passe à Clermont-Ferrand, chez ses parents, à refaire le monde avec un copain en buvant du gros rouge et en baisant sur des matelas gonflables. Et puis arrive l'été 68. Et c'est là que Thierry conclut avec Christiane, une fille qu'il a dans le viseur depuis la terminale. Christiane sera sa femme pendant 10 ans et Christiane tombe enceinte. J'ai décidé de la faire avorter. Ça s'est passé sur la table de la cuisine avec une faiseuse d'ange de Marseille, à coups d'aiguille à tricoter. À la fin de l'année 1968, Thierry n'a pas de projet. Il zone à Issoire chez ses parents, mais il commence à cultiver un goût pour l'écriture, pour les mots, pour les formules, pour les répliques. Il sent que c'est ça son truc, jouer avec les mots. Récemment, il a participé à un concours de slogans pour les chaussettes STEM. Il a trouvé une jolie formule, hein. STEM, un peu, beaucoup, passionnément. C'est pas mal. Ça n'a débouché sur rien, mais ça lui a filé le virus de la pub. Ses parents veulent le faire entrer comme journaliste au journal La Montagne, à Clermont-Ferrand. Il veut aller à Paris, et donc, comme il dit, il déserte. Pendant 10 ans, je ne reverrai pas mes parents, ni le reste de ma famille. Je voulais qu'ils sortent de ma vie, ni père, ni mère, ni frère, ni grand-mère. Et donc il part un matin de 1969, seul, en stop, avec un sac et 50 balles en poche. Et le voilà à Paris. Il n'a aucun diplôme, mais il veut rentrer chez Publicis. Alors un matin, il se pointe au drugstore Publicis, en haut des Champs-Élysées.
Bonjour. Je voudrais voir quelqu'un pour du travail.
2 minutes plus tard, il est reçu par un type dans un bureau.
Dites-moi, jeune homme, est-ce que vous avez fait votre service militaire? Parce que on pourrait vous engager, hein, vous former, mais dans un an, vous allez partir à l'armée, n'est-ce pas? Alors c'est pas la peine.
Il se dit c'est cuit. Et puis en redescendant les Champs-Élysées, au 73, il voit une plaque BBDO, agence de publicité. Alors il sonne, il monte, et en 2 coups de cuillère à peau, il est embauché. Pour 1000 francs par mois. Ah, les années 60, c'était plus facile. Et il se met à bosser sur le budget prise unique. Tout va bien. Enfin non, il y a Christiane. Elle vient de le rejoindre. Ils ont pris une location rue de Savoie. Mais elle a quelqu'un d'autre, Christiane. Toujours ce Alain. Un jour, le téléphone sonne, c'est Thierry qui décroche. Et au bout du fil, c'est Alain. Il se dit, je vais la perdre. Alors il va dans la salle de bain et il s'ouvre les veines avec un rasoir. SAMU, urgence et rendez-vous avec un psychiatre.
Vous êtes quelqu'un de créatif, jeune homme. Un peu artiste, quoi, hein? Le revers de cette médaille, c'est une difficulté à vivre. Alors l'analyse ou la médecine peuvent vous soigner. On peut vous donner des cachets qui vous rendront une certaine normalité. Mais la question est de savoir si vous désirez entrer dans cette normalité. Ou si vous choisissez d'assumer une certaine dose de folie, hein? Et donc de mal-être.
Bonne question. Vous voulez la réponse? Ce psychiatre est l'unique psychiatre que Thierry Ardisson va voir de toute sa vie. Il ne se fera jamais soigner, jamais. Il a choisi d'assumer une certaine dose de folie. Thierry épouse Christiane à Avignon en juin 1970, en blanc et à l'église. Et un jour, comme il fallait s'y attendre, arrive la convocation pour le service militaire à Limoges. Il y va. Et en arrivant, il dit
« Moi, je peux pas le faire, votre truc, hein. Je suis fou. »
On l'emmène devant le chef psychiatre
Ah, docteur, vous allez comprendre, vous, hein. Je suis vraiment fou, hein. Je peux pas faire l'armée.
Il a dû être convaincant, il est réformé. Revenu à Paris, Thierry passe de boîte de pub en boîte de pub, avec des salaires toujours plus élevés. Mais tout ça, pour lui, ça n'est qu'un amusant gagne-pain, comme il dit. Il veut écrire. Il pense que c'est la littérature qui va le rendre célèbre. Et donc, il part 3 mois en Grèce, sur l'île de Ios, et il revient avec un roman, « Ciné-moi », que les éditions du Seuil sortent en 1973. Il a 24 ans. Les critiques sont plutôt bonnes. Mon nom est sur la couverture. On me voit en photo. J'existe. Mais sur le coup, je m'aime. Ah ouais, je suis content de moi. Côté boulot, Thierry vient de rentrer chez TBWA. C'est le top niveau des agences de pub à l'époque. Il gagne 30 000 balles par mois. Et assez vite, il devient la vedette de l'agence. L'un de ses gros coups, c'est une campagne pour le fromage Samos 99.
Il faut un verre de lait comme celui-ci pour faire une portion de fromage Samos 99. Chaque fois que votre enfant mange une portion de Samos 99, il prend 38 mg du calcium nécessaire chaque jour à sa croissance et à son équilibre.
Et son idée de génie, c'est que quand le gamin de la pub mange du Samos 99, le niveau du verre de lait à côté de lui baisse. Mais à côté de ça, le démon de l'écriture continue de le travailler. Il veut faire un deuxième livre. Et donc en mars 1974, Christiane et Thierry vont s'installer à Bali, en Indonésie. Et Bali, dans ces années-là, c'est le rendez-vous de tous les défoncés de la planète. Il y a de la drogue partout. Et c'est là que Thierry se fait son premier shoot d'héroïne. C'est simple, tu n'as plus envie de rien. C'est le nirvana. Tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie de baiser, tu n'as plus envie de réussir dans la vie, tu n'as plus envie de rien. Tu es dans un état serein. Le souci, c'est que les premiers mois, tu en prends pour être bien, et qu'après, bah t'en prends pour ne pas être mal. À cette époque-là, Thierry se trimballe avec plein de petites boîtes. Une petite boîte d'héroïne, une petite boîte de cocaïne, et une petite boîte d'herbe. Mais avec tout ça, il n'arrive pas à écrire. Et donc de Bali, il se tire à Bangkok, en Thaïlande. Et de Bangkok, à Vientiane, au Laos. À ce moment-là, Thierry consomme de plus en plus d'héroïne. Et au bout d'un mois, il n'a plus un radis. Il ne peut même plus se payer l'hôtel. Et il échoue avec Christiane dans un HLM miteux de Vientiane. Et un jour, il se retrouve même à faire la manche.
Bonjour, monsieur. Vous êtes français? Vous pourriez me dépanner de 1 000?
Au bout du rouleau, Thierry finit par appeler sa banquière au secours.
Allô ? Madame Hennequin ? Il faut me sortir de là, Madame Hennequin. Prêtez-moi du fric. Je vous le rendrai.
Et c'est donc sa banque qui paye le billet retour vers Paris. De retour à Paris, Thierry tente de se relancer dans la pub. Mais comme il le dit, il a mis les doigts dans la prise. Il est accro à l'héroïne. Il ne se shoote pas, il sniffe. Je n'avais pas du tout l'impression d'être malade. À l'époque, quand tu prenais de l'héro, tu étais un héros. Tu étais ce qu'on faisait de mieux. Sa femme, Christiane, lui dit « Arrête, arrête Thierry !» Elle le voit sombrer. Et d'ailleurs, il vient de se faire virer de son agence de pub. J'étais défoncé du matin au soir. Je devenais dangereux. Et ils décident tous les deux de changer d'air et d'aller aux États-Unis. À New York, d'abord. Sauf qu'ils descendent au Chelsea Hotel, qui est un repère de drogués, pour décrocher, je vous le dis, il y a mieux. Et puis en Californie, à Santa Barbara, chez un copain, Julian, qui a une belle maison face au Pacifique. Et là, il décroche. Là, il se refait une santé. Là, il fait du sport, lui qui déteste ça. Putain, les premiers temps, j'ai cru mourir des fois. À bout de souffle, une épave j'étais. Et quand il rentre à Paris, il ne se drogue plus. C'est une vraie renaissance. J'ai regardé Paris avec le regard des touristes japonais. J'ai commencé à trouver Paris beau. J'ai commencé à prendre du plaisir à vivre dans la ville lumière. Et c'est à cette époque que Thierry rencontre Alain Benoît. C'est un publicitaire qui vient de lancer un magazine branché, chic et snob, Façade. Façade, le magazine qui se lit le matin avant d'aller se coucher. Alain Benoît cherche quelqu'un qui sait écrire. Et Thierry, qui rêve d'approcher des gens comme Andy Warhol, Saint-Laurent, Brian Ferry, Salvador Dali ou Kenzo, se dit que c'est une occasion unique. C'est un moment capital dans sa carrière. Il se retrouve à travailler autour d'une table avec des mecs de sa génération que personne ne connaît encore, mais qui s'appellent Philippe Starck ou Jean-Baptiste Mondino. Il surfe sur l'air du temps. Et c'est à cette époque qu'il change de look. Fini le perfecto, les foulards, les broderies, Thierry adopte le costard neutre, gris anthracite. Il porte encore des polos Lacoste rouges et bleus, mais pas pour longtemps. On est en 1978. Thierry vient de créer une boîte de pub, business. Mentalement, c'est un killer. Depuis qu'il a arrêté l'héroïne, il est devenu dur. Il est capable de tout pour conclure une affaire. Il le dit lui-même. La pub, la presse, l'audiovisuel, ça cogne dur. Hein. Tu survis pas si tu sais pas frapper. De préférence le premier. Je ne m'embarrassais jamais avec les autres. Ou ils pliaient, ou ils dégageaient. Et donc d'entrée, il vire son associé.
Virer ? Oui, virer.
Et c'est dans ces eaux-là que Thierry commence à fréquenter le Palace, une boîte de nuit qui vient d'ouvrir rue du Faubourg Montmartre. L'endroit est fréquenté par tout un tas de célébrités. Grace Jones, Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, Amanda Lear, Frédéric Mitterrand, Jack Lang, le couturier Kenzo et aussi de temps en temps John Travolta, Mick Jagger, Andy Warhol. Ceux qui font l'époque. D'ailleurs, c'est un peu ça hein, qui vient chercher l'époque. Parce qu'il n'est pas vraiment dans la bande, hein. Il est un peu à côté. Il n'est pas fêtard, il ne veut pas retomber dans les années héroïnes. Il l'a déjà donné. Et puis il a sa boîte à faire tourner. À cette époque-là, il est très ambitieux. Et donc, il est dedans pour renifler l'époque et un peu dehors pour se sauver. Bon, il tombe quand même dans la cocaïne, mais c'est pour se fondre dans cette micro-société. C'est pour l'observer, c'est pour s'en inspirer. Et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'il crée des slogans qui ont marqué l'histoire.
J'ai 8 secondes pour vous dire que la Baroque Ovaltine, c'est de la dynamique.
Et la paire, il n'y en a pas deux. Ben, c'est lui aussi. Et cette pub pour Tropico, aussi. Mais déjà, la pub le lasse. À force de vendre des yaourts, dit-il, on finit par avoir du fromage blanc dans la tête. Et au bout de cette histoire, en 1984, un jour, il reçoit un coup de fil.
Allô ? Thierry Ardisson ? Bonjour, c'est Daniel Filipacchi à l'appareil. Je voudrais vous voir.
Cette voix le ramène à l'enfance. Daniel Filipacchi, il l'écoutait avec ses parents sur Europe numéro 1. Pour ceux qui aiment le jazz, salut les copains, c'était lui. La suite, vous la connaissez. La télé, le succès. Mais c'est une autre histoire, n'est-ce pas?
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.